sur les routes du Tour avec ERDF. ERDF, au cœur des réseaux électriques de demain. RMC, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Et on se rapproche tout doucement de l'arrivée à Mende. Il reste encore 37 km à parcourir avant que le peloton ne voit la route se cabrer à nouveau en direction de l'aérodrome de Mende où sera jugée l'arrivée de cette 14e étape. On va faire un point sur la course dans un instant. Auparavant, nous repartons pour London, pour le Queen's, où le quart de finale de Coupe Davis entre la France et la Grande-Bretagne se poursuit aujourd'hui avec le double. Nous sommes dans la troisième manche. Eric Salieu, est-ce que les Français ont réussi à faire la différence dans cette troisième manche?
Non, toujours pas. 5 jeux à 4 pour la paire française Tsonga Mahut, mais ce sont les Écossais. Alors les Britanniques, on va dire, mais ce sont tous les deux de nationalité écossaise. Jamie et Andy Murray qui sont au service, donc ils ont toutes les chances de revenir à 5 jeux partout, puisque depuis le début de cette rencontre, Christophe, il y a eu un break dans.
C'est assez rare en double qu'il n'y ait si peu de breaks réalisés, non?
Bah, on est sur gazon, Christophe, donc c'est très dur de prendre le service des eaux. Donc les Français l'ont fait au premier set et les Britanniques l'ont fait au deuxième. Et c'est vrai que depuis, on voit pas de balle break, les jeux défilent. Je dirais pas que c'est ennuyeux, mais ça commence à devenir crispant parce que là, on arrive quand même dans le money time. Donc 5-4 pour les Britanniques et 40-0. Donc on va tout droit vers un 5 jeux partout et probablement dans 10 minutes.
Un tie break. Ouais, ça, on se rapproche du tie break. On le vivra avec toi tout à l'heure. Merci, Eric.
Et là,
oui, pas pareil. Tendu, très très tendu. Parce que si tu prends l'avantage de 7 à 1, là, t'es plus qu'à un petit 7 pas de la qualif, mais quasiment. Hein. Ouais. Parce qu'il faudrait un exploit demain. Si on tourne à 2-1 pour la Grande-Bretagne ce soir, il faudra battre Murray demain. Et là, c'est une autre paire de manches, évidemment.
Absolument.
Merci, Eric, à tout à l'heure. Rodolphe Massé, pas de bonnes nouvelles en provenance de Moscou, malheureusement.
Et non, troisième journée de suite sans médaille pour l'équipe de France d'escrime. Les épéistes françaises échouent à la plus mauvaise place au pied du podium après avoir perdu la petite finale pour le bronze. 44 touches à 42 contre l'Ukraine. Pourtant, Marie-Florence Kandasamy a tout tenté lors du 9e et dernier relais qu'elle a remporté 17 à 13. Mais elle avait 6 touches à remonter. Elle n'en a remonté que 4. Les Françaises terminent donc 4e aujourd'hui. Les Français à l'épée 5e. Dernière chance de titre. Ce sera demain avec le fleuret dames par équipe et surtout le fleuret hommes par équipe. Ils sont champion du monde en titre, les fleurettistes.
Merci. Tout à l'heure, non, il n'y a plus de compétition, il n'y a plus d'espoir de médaille.
C'est fini là, aujourd'hui c'est fini, on bâche.
Bon, bah tu peux aller en boîte de nuit alors, hein, parce qu'à Moscou.
C'est un peu tôt là quand même pour le moment.
Il n'y a pas un décalage horaire, quoi. Quelle heure il est à Moscou là?
Il
est
18h. Mais il n'y a qu'une heure de plus.
Ah, il y a quelle heure de plus?
17h09 là pour le moment ici. Donc non, c'est très tôt. Et je serai
profite,
dans le JDS.
Profite de
l'intégral tour avec Martial.
Ouais, oui, c'est pas fini. La journée est loin d'être terminée. Merci Rodolphe, à tout à l'heure.
Salut Christophe.
16h09, nous sommes toujours dans ce final de la 14e étape du Tour de France. Fred, 36 km. Et avance de nos échappés qui continuent de se maintenir de allure acceptable.
Hein, c'est proportions raisonnables et intéressantes pour la gagne, pour la victoire de l'étape. Toujours 20 coureurs à l'avant de la course. On le rappelle, la présence des Français Mathieu Ladagnus, Jérémy Roy et Thibaut Pinot pour la FDJ. Également présent Perrichon chez Bretagne Séchée, Cyril Gauthier pour Europe Car. Deux coureurs qui étaient déjà à l'avant hier en direction de Rodez. Et puis notez la présence surtout de Romain Bardet, l'ancien 6e du Tour de France, qui pointait ce matin à 17 minutes 26 de Christopher Froome. C'est le mieux placé au général dans cette échappée. Romain Bardet qui peut viser la gagne là-haut sur les hauteurs de Mende après l'ascension de la côte de la Croix-Neuve. On est à 36 km de l'arrivée. 5,50 dernier pointage noté dans ce groupe de tête. Également la présence du Colombien Rigoberto Urán, du champion du Luxembourg Bob Jungels, mais aussi de Greg Van Avermaet, vainqueur de l'étape d'hier à Rodez, et de Peter Sagan, le maillot vert, son dauphin hier à Rodez.
Très bien, c'est l'heure de la question du jour avec nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Il est là, David Oprzynski. Bonjour David.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, en attendant l'orage.
Tu tiens le casque là, ça va pas s'envoler, t'inquiète pas. Ça va, tout va bien David?
Très
en
bien,
pleine forme.
Bien.
Et puis nous a rejoint notre sourire préféré sur ce Tour de France, la petite Falbala. C'est son surnom ici.
Bonjour messieurs.
Marion Rousse. Bonjour Marion.
Bonjour, bonjour.
Comment ça va Marion?
Très très bien, hein, mieux que les coureurs je pense.
Ah ouais, terrible avec ces conditions climatiques, même si aujourd'hui il fait un petit peu moins chaud, mais ici on est un peu sur les hauteurs, mais là dans les gorges du Tarn il doit faire
il fait lourd, 35 degrés sur la route du Tour aujourd'hui, on est très très bien sur les hauteurs de Mende.
Alors on va faire un pari, messieurs dames, on va se demander si cette échappée aujourd'hui va aller au bout ou non. Hier, c'est pas passé loin. Il a manqué quoi, 500, 600 mètres aux échappés, au dernier rescapé de l'échappée, Fred, dont Cyril Gauthier, évidemment, dont on espérait la victoire. Il s'est fait reprendre comme ça dans les derniers mètres. C'est très frustrant, évidemment.
C'est Thomas De Gendt, le Belge, qui a été avalé le dernier dans la finale.
Les trois derniers,
je dis Thomas De Gendt parce que c'est un coureur de l'Auto Soudal.
Ah oui, coéquipier de Marion, alors.
Et coéquipier de Tony Galopin également, évidemment. Oui, ça s'est joué à rien hier et ce fut millimétré, ce fut du grand art. Quel spectacle ce sprint de Rodez. On n'en revient toujours pas. Hein. Ce mano à mano entre Van Avermaet et Sagan, des spécialistes des classiques flandriennes sous la canicule à Rodez. Aujourd'hui, ça a tout l'air de prendre un très bon chemin pour les 20 hommes de tête parce qu'à 20, il y aura forcément des coureurs qui seront frais et capables de gicler, que ce soit en ce moment dans la côte de Sauveterre, dans la côte de Chabris à 9 km de l'arrivée ou plus vraisemblablement dans la montée finale de Mende, la côte de la Croix-Neuve. 3 km avec des passages à près de 18%, 10% de déclivité moyenne. David, on y croit aujourd'hui et est-ce que ça peut être la résurrection des deux grands battus français du début de Tour de France, Thibaut Pinot et Romain Bardet?
Oui, on a envie d'y croire et on y croit aussi parce que effectivement avec le nombre de d'équipes représentées à l'avant laisse penser que peut-être le peloton ne va pas tout donner pour revenir dessus. Ce qui est marrant de voir, c'est que hier on discutait avec Laurent Jalabert, donc qui s'était imposé ici il y a 20 ans, et son conseil sur la façon dont les Français pouvaient espérer gagner l'étape aujourd'hui, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il a dit, faut que Pinot, faut que Bardet, ils attrapent l'échappée du jour, parce que à mon avis, le peloton, il est un peu fatigué, il va pas tout donner pour revenir dessus. C'est ce qui est en train de se passer. Alors après, effectivement, il faudra que Bardet et Pinot soient les plus forts dans l'ascension finale, mais il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas.
Marion, ton avis sur cette question, ça va aller au bout aujourd'hui? Les Français vont-ils retrouver un peu de sourire? Parce que, mis à part ton époux, on est un peu frustré quand même, côté français, depuis le début de ce tour.
Non, mais clairement, si il n'y a que l'équipe Sky qui roule, ils n'ont aucun intérêt à revenir sur les hommes de tête. Donc si on n'a pas d'équipe comme Katusha qui vienne relayer l'équipe Sky à l'avant, forcément que l'échappée ira au bout. Maintenant, avec 5 minutes 44 à 35 km de l'arrivée, ça sent quand même bon pour les hommes de tête.
Ouais. Marion, un petit mot, puisque toi, tu es un peu une petite souris espionne au sein du peloton avec ton mari, Tony Galopin. Dans quel état ils sont là, les coureurs là? Ils sont pas un peu
fatigués?
Si,
ils sont vraiment fatigués. Hein. Tony, ce matin, je l'ai vu. Il m'a dit, c'est vraiment là les deux derniers jours qui ont été durs. Le réveil est très très dur. Il commence vraiment à avoir mal aux jambes. Le mental aussi un peu fatigué. Mais je pense que ça concerne tous les coureurs du peloton. Donc voilà.
Après, suiveurs, hein.
Et voilà, ouais, même nous, on est fatigués, faut le dire.
Moins que quand même, faut bien le dire. Hein.
Moins que, mais voilà, aujourd'hui, ça s'annonce quand même assez calme pour le peloton. Je pense que ça va se jouer dans la dernière bosse hein, de Mende. Donc je pense que les leaders vont un petit peu récupérer jusque là.
Marion et les gars du Parisien, vous ne vous quittez plus. Hein.
Un très bon papier sur Marion aujourd'hui.
Ben oui, sur ses multiples activités.
Ah ouais, elle n'arrête pas.
Voilà.
À mille à l'heure.
C'est la femme orchestre du Tour de France.
Exactement.
Elle est partout pour Antargaz, le prix de la combativité. Pour Eurosport et puis pour remonter le moral de son mari quand même de temps en temps, même si tu le vois pas beaucoup, hein, c'est un peu frustrant quand même de se croiser comme ça au village départ le matin, c'est ça?
Ouais, je dois le voir 5 minutes hein, tous les jours. Non, mais de toute façon, je suis pas là non plus pour aller l'embêter ou pour le fatiguer. Hein. Je pense qu'il a d'autres choses à faire que de voir sa femme tous les jours. Donc non, mais c'est quand même sympa de pouvoir prendre un petit café tous les matins et voir un peu les sensations qu'il a.
C'est mieux que beaucoup, hein, ce que vit le couple Galopin pendant 3 semaines et demie sur le tour. Il y en a qui voient pas leur compagne.
C'est vrai.
Et
que ce soit coureur ou suiveur, hein, c'est un peu la même chose. Hein.
Quintana, je crois que sa femme est en Colombie. Donc,
ah ouais.
C'est un peu plus compliqué pour venir.
Il y en a d'autres, des femmes de coureurs présentes sur le tour en ce moment cette année.
Je crois qu'il y a Julie Vauclair, la femme de Thomas Vauclair, qui suit toutes les étapes en camping-car.
Ouais, pas encore en motorhome, ça c'est que pour les Sky, motorhome, c'est pas pour les coureurs français. Donc optimiste pour aujourd'hui. Alors, Marion, lequel des Français va nous faire vibrer là dans les jours qui viennent? Évidemment, Tony. Juste un petit mot, dans quel état est-il? Enfin, tu nous en as parlé, mais il a fait quand même une première partie extraordinaire. Oui. Les deux premières étapes dans les Pyrénées, il s'est accroché au meilleur. La troisième, ça a été un peu plus dur, évidemment. Il n'a pas perdu grand-chose, mais quand même, il a...
Il est sorti des Pyrénées vraiment content de lui, fier, je pense, et un petit peu surpris, parce que bon, Anthony, c'est pas non plus un grimpeur hors pair. Il a vraiment travaillé ça. On a été en stage tout ensemble à la Sierra Nevada, donc voilà, il a quand même monté pas mal de cols. De là à pouvoir être encore dans le top 10 à la sortie des Pyrénées, je pense qu'il est surpris lui-même, mais c'est un ensemble qui a donné aussi ce résultat-là. Il était toujours aux avant-postes depuis la première étape, donc que ce soit sur les pavés, dans les bordures. Donc voilà, il a bien passé l'école. Quoi.
Tony Galopin, 8e ce matin,
oui, un peu plus de
7 minutes 30 de Christopher Froome qui est dans le peloton là.
Du coup, ça va être compliqué forcément pour aller chercher une étape, parce que quand on est 8e au général,
oui,
et qu'on cherche à... Parce que là, c'est quoi? Son ambition, c'est rentrer dans le top 10, voire mieux ou...
Ah oui, ce matin là, il est vraiment motivé en tout cas pour essayer de rester dans le top 10. Ce serait quand même une marge de franchie pour lui, et c'est sûr que ça le limite vachement pour aller chercher une victoire d'étape. Aujourd'hui, ça aurait peut-être pu lui convenir, mais voilà, malheureusement,
s'il avait été dans l'échappée, le peloton n'aurait pas laissé autant d'avance.
Non, de toute façon, il y a une étape où il a essayé de sortir et les Sky sont venus à sa hauteur et ils lui ont dit non, mais Tony, de toute façon, cherche pas, on ne te laissera pas partir.
Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on on voit Thibaut Pinot qui est bien entouré, il y a Jérémy Roy qui fait un travail incroyable depuis un moment, alors qu'il est tombé ce matin, les deux coureurs de la FDJ sont tombés, il y a leur coéquipier Steve Moravito, on a appris, c'est confirmé, donc la fracture de la clavicule. Voilà, donc la FDJ aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de se passer, et puis comme on annonce, enfin on en a beaucoup parlé, mais des conditions météo un petit peu particulières à l'arrivée, avec de l'orage et sans doute des températures qui vont redescendre, ça devrait profiter à Thibaut.
Ouais, bah oui, parce qu'il il aime la pluie,
vainqueur d'étape sur le Tour de Romandie encore cette année sous la pluie,
Tour de Suisse également.
Il ne pleuvait pas sur les hauteurs de Solden.
Oui, il faisait très froid par contre.
Il faisait très froid, il faisait très beau. Magnifiques images à plus de 2600 mètres d'altitude. Aujourd'hui, c'est un peu moins haut, mais qu'est-ce que c'est pentu? On le rappelle, l'arrivée sur les hauteurs de Mende, la côte de la Croix-Neuve, arrivée sur l'aérodrome. Hein. On n'arrive pas au sommet de la Bosse. Il y a encore 2 km avec une descente, un faux plat descendant. C'est très roulant. Le Tour de France qui est arrivé à 3 reprises ici sur les hauteurs de Mende, ici sur l'aérodrome. Victoire de Jalabert en 95. Marco Serrano, qui s'en souvient de ce coureur espagnol de l'équipe Liberty Seguros en 2005, et puis il y a 5 ans, en 2010, c'est Joaquin Rodriguez, le puncheur de la Katyusha, qui s'était imposé. Il aura du mal à rééditer cette performance, lui qui a déjà remporté 2 étapes depuis le départ du Tour.
Ça s'appelle la montée Jalabert, David, tu as enquêté ou non là? Est-ce que ça s'appelle vraiment la montée Jalabert?
C'est la légende maintenant.
L'ancienne montée Jalabert.
Et lui-même est très content finalement que ça porte plus son nom, parce que il était un peu gêné finalement qu'on ait rebaptisé cette ascension de son nom.
Merci David d'être venu au camion pour notre petit débat chaque jour, notre petite question avec le Parisien aujourd'hui en France. Marion, merci.
Merci à vous.
Tu es la bienvenue quand tu veux pour
c'est noté.
La course. Tu participes au jury du prix de la combativité?
Non, on m'a toujours demandé.
Parce qu'on
se demande pourquoi
on ne donne pas le prix aux coureurs français.
Bah écoutez, je ne sais pas, je fais pas partie du jury. C'est vrai qu'il y a eu quelques fois où on a été un peu surpris du nom donné pour le super combatif, mais voilà, je pense qu'ils ont leur raison. Bon. Il y a un jury qui est là pour ça.
Oui, un jury.
Il faut prendre des décisions. Ça ne fait pas tout le monde, mais c'est comme ça.
Bon jury, à mon avis, c'est ça.
C'était Degen hier. C'est pas Cyril Gauthier.
Non, Thomas Degen, qui a passé 2000 km déjà en tête depuis le début de l'année.
Et
l'autre jour.
C'est ce que tu disais, c'est peut-être qu'on prend en compte le nombre d'échappés depuis le début du tour, ceux qui sont quand même le plus souvent à l'attaque. Ça peut entrer en.
Thomas Degen pour l'ensemble de son œuvre depuis le départ du Trert.
Jérémy Roy sera pas loin, à mon avis, aujourd'hui.
Ah, oui, je pense également.
Et oui, maillot déchiré.
Exactement.
Ah, ils aiment ça.
Ah, non, c'est pas forcément.
Non, pas les coureurs, mais le jury.
Le jury, oui.
Ah, forcément. Ouais.
Très bien. Merci Marion, merci David.
Merci
on vous retrouve bientôt sur l'antenne d'RMC. Nous, on va se quitter quelques instants. 16h20, un tout petit point quand même, Fred, puisque l'avant-garde du peloton passe la côte de Sauveterre à l'instant même, les échappés.
Oui, 32 km 400 et toujours 20 à l'avant de la course. Il n'y a pas eu de différence dans cette côte de Sauveterre classée en deuxième catégorie. catégorie longue de 9 km. C'est monté au train, un train imprimé par les FDJ. Ils étaient trois à l'avant, Pinot, Ladanius et Jérémy Roy qui a effectué la majeure partie de l'ascension en tête. Toujours 5 minutes 30 d'avance pour les 20 hommes de tête. On nous trouve également, on le rappelle, Perrichon pour Bretagne Séchée, Gauthier pour Europcar et puis Romain Bardet, le mieux classé au général à 17 minutes 26 de Christopher Froome ce matin au général.
On repart pour Londres, Eric Salio, avec peut-être un coup de théâtre dans ce match en double, puisque Andy Murray se fait soigner ou s'est fait soigner il y a quelques instants.
Oui, il a lourdement chuté sur le gazon londonien il y a environ 5-6 minutes et pendant quelques secondes, il est resté vraiment comme KO. Finalement, il s'est relevé, il s'est fait manipuler, soigner au niveau de l'adducteur droit. Il vient de reprendre le jeu, mais c'est pas le meilleur moment pour lui parce qu'il est au servi, donc on va guetter évidemment dans quel état physique il se trouve. La marque est à 7 partout, donc 6-5 pour l'équipe de France, et donc Andy Murray est au service. Il y a 15-0 pour les Britanniques, mais peut-être qu'il va être handicapé sur certaines phases de jeu, mais bon, les Français n'en profitent pas. 30-0, on file droit vers le tie-break.
Ce sera un drôle de coup dur quand même pour la paire britannique et pour l'équipe britannique, puisque Andy Murray quand même ça va aller. Alors, il est solide, il a pas l'air comme ça très solide, mais il est costaud. À tout à l'heure, Eric. 16h22, vous êtes sur RMC l'Intégrator, on revient dans un instant pour le final de cette étape, puisque nous sommes désormais à 31 km de l'arrivée.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
Le final se rapproche pour les coureurs du peloton de ce Tour de France 2015. 14e étape aujourd'hui entre Rodez et Mende. Nous sommes à moins de 30 km de l'arrivée. Fred, dans l'une des dernières difficultés du jour, en tous les cas le peloton qui se trouve dans la difficulté. Enfin, c'est une côtelette, hein, 4e catégorie, mais avec la fatigue qui touche le peloton depuis quelques jours, il peut y avoir des dégâts.
Alors le peloton dans la côte de Sauveterre et la tête de course qui approche effectivement de la côte de Chabris. Ce sera dans quelques instants la tête de course toujours composée de 20 hommes dont les trois Français Ladanius, Roy et Pinot de la FDJ, Perrichon pour Bretagne Séchée, Cyril Gauthier chez Europcar et Romain Bardet qui garde du jus depuis le début de la journée pour eh bien peut-être aller remporter sa première étape sur le Tour aujourd'hui sur les hauteurs de Mende après l'ascension de la côte de la Croix-Neuve. Ça bouge à l'avant de la tête de course avec les FDJ qui sont toujours omniprésents. Jérémy Roy avait fait la montée de la côte de Sauveterre. C'est maintenant Mathieu Ladanius qui fait la descente.
Très bien, Lucho nous a rejoint. Lucho qui a fait le final de cette étape après avoir rempli la Lucho Mobile qui commence à peser des tonnes. Lucho, un petit mot sur cette montée vers l'aérodrome de Mende. C'est une côte redoutable en fin d'étape comme ça. C'est
oui, elle est.
On va pas passer, évidemment.
Elle est très 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 raide. Hein. Il y a des pourcentages quand même assez grand, hein, 15-16%. Tu veux dire quelque chose, mon Fred?
Oui, apparemment, Michel Golas dans l'échappée attendait ton intervention pour attaquer dans.
Oui, mais j'ai bien vu ça. Il n'a pas envie que je parle.
Dans le groupe de tête, c'est un coureur polonais de l'équipe Etix Quickstep, coéquipier de Michal Kwiatkowski, le champion du monde, et lui aussi fait la descente.
Allez, on va voir la moto RMC qui se trouve à l'avant de ce groupe d'échappée. Georges, ça commence à bouger justement dans ce groupe d'échappée. Il va peut-être y avoir des tentatives maintenant jusqu'à l'arrivée.
Exactement, dans cette phase descendante, les routes sont enfin larges après avoir été sur des routes étroites pendant un petit moment là dans les gorges du Tarn notamment. Et Michel Golas qui a pris une centaine de mètres d'avance désormais, le coureur de la formation Etix Quickstep, le polonais. On voit les coureurs de la formation FDJ, Ladanius notamment, qui essaie d'assurer la poursuite. Et derrière ce groupe d'échappés, la voiture rouge, Christophe, avec le directeur du Tour, Christian Prudhomme, qui est accompagné du président de la République, François Hollande, qui est là. Il y a deux motos également de sécurité, on va dire, qui sont à gauche et à droite de la voiture, qui colle à la voiture rouge de Christian Prudhomme. Et c'est vrai que c'est du coup un peu plus dur de circuler derrière cette échappée ou avec tous les voitures de directeurs sportifs qui doivent remonter. Ouais. Ça fait un sacré trafic.
Moi, je me souviens, Georges, qu'il y a quelques années, peut-être l'année dernière ou il y a deux ans, tu avais réussi à interviewer le président de la République à sa portière.
Exactement.
Hein, donc voilà, le challenge est là.
C'était sur le chemin des dames l'année dernière, sur le chemin des dames, sur une route très large, dans une descente, pendant une montée. Il n'y avait pas 66 millions de voitures derrière lui comme aujourd'hui. On va essayer.
Oui, oui. Et puis on n'était pas en alerte rouge évidemment sur
la... on sent que la sécurité est plus importante d'ailleurs,
ouais.
Christophe, hein, par rapport aux autres années. Par exemple, sur l'endroit où le président devait rejoindre Christian Prudhomme, on a eu le secret jusqu'au dernier moment, alors que d'habitude les organisateurs nous le communiquent. Là, ça a été secret défense pratiquement jusqu'au dernier moment pour savoir où François Hollande allait rentrer dans la voiture rouge.
Et les forces de l'ordre ici à Mende sont un peu sur les dents aujourd'hui, pas tranquille évidemment. Il y a le président de la République qui vient, c'est le big boss quand même. Faut pas rigoler. Il faudrait pas qu'il arrive quelque chose sur les routes du Tour. Luc, donc je te posais la question avant que ne se produise cette petite attaque. Donc la montée de demande, c'est quand même du costaud. Hein. C'est pas très long, mais c'est bien pentu. Hein.
Ah, c'est bien pentu, oui, c'est bien pentu. Là, on voit qu'on est à 26,4 km de l'arrivée, 5 minutes 21 d'avance. C'est encore faisable pour les hommes de tête. Après, il faut voir si les équipes vont mettre en route derrière pour faire gagner des coureurs comme Valverde, Pourito, Rodriguez, et voir peut-être éventuellement Froome. Quoique les deux derniers kilomètres sont relativement en descente et plat, donc on voit plus un Valverde le remporter aujourd'hui. Mais l'ascension est très 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 difficile, et c'est vrai qu'en fin d'étape, après des journées très très chaudes comme les journées précédentes, c'est vrai que ça va être vraiment délicat à aborder cette dernière montée ici. Donc la montée on l'appelle comment alors maintenant?
La côte de la Croix-Neuve. La côte de la Croix-Neuve, voilà. Côte de la Croix-Neuve, Luc, sans te faire offense.
Depuis qu'il y a une croix, quoi. Hein.
Sans te faire offense, oui, ça remonte à des siècles ou des décennies au moins. Je vois mal l'un des favoris aujourd'hui s'imposer pour la victoire d'étape. 5,25 à 25 km de l'arrivée en direction de la côte de Chabry tout à l'heure, qui sera l'avant-dernière difficulté de la journée. Ça sent de plus en plus bon pour les 20 hommes de tête qui sont toujours quasiment groupé, puisque Michal Golas, le Polonais de l'équipe Etix Quickstep, a décidé de se faire la malle. Il passe à l'instant sous la banderole des 25 km à 60 km heure en descente. 5 minutes 30, dernier pointage pour le tête de course.
Le tennis et le double du quart de finale de Coupe Davis entre la France et la Grande-Bretagne. Nous sommes dans le tie-break de la troisième manche. Eric Salio.
Oh, c'est chaud. 5 points partout dans ce tie-break du troisième set. Et deux fois, les Britanniques ont eu l'avantage. Et à chaque fois derrière, Jamie Murray a perdu cet avantage. Et donc, on est à 5 points partout. C'est Jamie Murray qui va servir une deuxième fois. Il s'est fait surprendre là sur un bon retour, le ligne de Joe de revers. Il le fallait, ce retour. Sinon, les Britanniques se seraient créés 2 balles de 7. Donc, 5 points partout. Il y aura 1 balle de 7 à venir dans quelques instants. Du quel côté? J'en sais rien. Côté bleu marine ou côté bleu ciel? Ce sera côté bleu marine. Le bleu de l'Écosse, 6 points à 5, Andy Murray qui exulte, il saute comme un cabri, il fait monter la température de plusieurs degrés ici sur le gazon du Queens, et là, grosse pression sur le service de Joe Wilfried Tsonga. Il faut sauver une première balle de 7. Ça ressemble un peu au tie-break d'hier où Joe était opposé à Andy Murray. On se souvient que ça s'est terminé à 12 points à 10 en faveur des Britanniques. Pourquoi pas le même scénario? En tout cas, on n'est pas là. Là, il y a une grosse menace, parce que si les Britanniques virent à 2-7 à 1, évidemment, c'est un ascendant psychologique extrêmement important. Joe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lâcher une grosse première comme tout à l'heure, ou alors il va préférer assurer la première balle et suivre derrière en espérant qu'Andy Murray, qui est très fin, hein, qui est très intelligent, qui est très subtil, ne parvienne pas à bien toucher son retour. Oh là, c'est pas vrai. Et Nico qui plonge, et c'est malheureusement perdu, parce que le retour d'Andy Murray était tout simplement fantastique. Il a obligé Nico Mahut à plonger côté gauche, mais il n'y avait rien à faire. Le retour était trop bon sur une première balle à 127 miles, donc plus de 200 km/h. Ça fait 2-7-1 pour les Britanniques. Ça se complique sérieusement.
Ça se complique effectivement. Il ne faut pas. Bah, il va falloir tout donner dans ce quatrième set pour revenir à deux partout et avoir à vivre un cinquième set de légende. On l'espère évidemment, Eric, car il ne faut surtout pas passer à 2-1 ce soir pour les Britanniques. À tout à l'heure. 22,8 km de l'arrivée. On va vivre le final de cette 14e étape dans quelques instants. Un seul homme en tête, Fred. Le point complet, ce sera dans un instant. Il s'appelle Golas, coéquipier de Cavendish.
Michal Golas, coéquipier de Kwiatkowski également. Il porte le maillot de l'équipe Etix Quickstep. Il est compagnon de chambre du champion du monde et il compte une 20aine de secondes sur ses 19 poursuivants. La tête de course à 5 minutes 30.
Allez, 5 minutes 30 d'avance. On fait un point complet dans quelques instants sur RMC. Dans l'intégral tour, à tout de suite.
RMC, 18 septembre 2015. Coup d'envoi de la 8e Coupe du monde de rugby en Angleterre.
Voilà Fred, le point complet c'est maintenant. Donc on rappelle 22 km de l'arrivée, 5,29 d'avance pour les hommes de tête. Ça commence à sentir bon quand même pour ces 20 là, ou à moins qu'il n'y en ait plus qu'un maintenant.
Oui, hein. D'autant que la physionomie du peloton est assez évocatrice. Les Sky de Christopher Froome sont toujours à l'avant, mais le peloton occupe l'ensemble de la chaussée. On monte la fin de la côte de Sauveterre, tempo, 5 minutes 30. On a décidé de laisser les échappés s'expliquer pour la victoire d'étape aujourd'hui. Les gros ne s'expliqueront pas pour aller remporter un succès de prestige sur les hauteurs de Mende. Joaquin Rodriguez ne fera pas la passe de deux, lui qui s'était imposé en 2010. Un homme seul en tête à moins de 22 km de l'arrivée maintenant. Il s'appelle Michal Golas. Il est équipier modèle au sein de la formation belge Etix Quickstep. Équipier pour Mark Cavendish. Équipier également pour Michal Kwiatkowski, le champion du monde. Il était présent, Golas, avec son coéquipier Rigoberto Urán, le Colombien, dans ce groupe de 20 coureurs. Un groupe où l'on retrouve également les Français Ladanius, Roy et Pinot pour la FDJ. Pierre-Luc Périchon chez Bretagne Séchée. Cyril Gauthier chez Europcar. Ces deux derniers étaient déjà échappés hier en direction de Rodez. Et puis la présence de Romain Bardet qui est un peu passé au travers des Pyrénées. Il s'est refait sur le dernier volet montagnard dans les Pyrénées avec une troisième place au plateau de Baye. Romain Bardet qui était le mieux placé au général ce matin dans cette échappée. Il est 15e à 17 minutes 26 de Christopher Froome. Romain Bardet qui pourrait tenter de faire jouer ses qualités de grimpeur plus que d'explosivité d'ailleurs dans la montée finale de la Croix-Neuve, arrivée tout à l'heure à l'aérodrome sur les hauteurs de Mende, 21 km de l'arrivée.
RMC, c'est au 32-16. 34 centimes la minute, plus coût éventuel selon opérateur. Et au 7-32-16, 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
On s'approche des 20 derniers kilomètres. D'ailleurs, la banderole vient d'être franchie par les échappés qui ne sont plus devant, puisqu'il y a un homme seul devant. Il s'appelle Golas. Il est polonais et il est membre de la formation Etix Quickstep. 23 secondes d'avance sur ses poursuivants. Rien n'est fait, évidemment, encore dans cette étape quand on sait les difficultés qu'il reste, et notamment la montée tout à l'heure vers l'aérodrome de Mende. C'est l'heure du jeu Tour de France RMC. Aujourd'hui, vous pouvez gagner le jeu de société L'échappée infernale, le livre Parlons vélo de Marc Madiot, et surtout deux places VIP pour assister dans les meilleures conditions à l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Elysées. Pour tenter de gagner ce cadeau, appelez le 32-16 touche 6 ou envoyez le mot-clé RMC par SMS au 7-32-16. Bonne chance. 19 km de l'arrivée. On va partir sur la route avec Georges Quirino sur la moto RMC. Georges.
On est derrière le groupe de poursuivants, derrière Michal Golas qui est parti. On a du mal à s'organiser pour l'instant, avec notamment la FDJ. On les voit dans les dernières positions. On voit Thibaut Pinot qui est bien dans ce groupe, qui ont essayé d'assurer la poursuite. C'est un peu les organiser pour assurer la poursuite. Là, on a vu la Danius et Roy qui ont essayé d'exploser un petit peu tout ça. Ça n'a pas suivi. On s'est beaucoup observé désormais dans ce groupe de poursuivant qui est en file indienne. Là, on est sur une phase descendante dans des routes assez larges, sur des trois voies, et on a du mal à organiser la poursuite derrière l'homme de tête.
Très bien. Avant de s'intéresser au final vraiment de manière plus précise, on va retrouver notre ami Dédé.
Il est où, Dédé?
André de l'Assemblée des départements de France qui nous parle de la route, des conditions météo, de son gros Léon. Qu'a-t-il à nous dire aujourd'hui? Salut Dédé.
Salut à tous. Ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est qu'on attendait beaucoup de chaleur. On en a eu au départ, puisqu'on a eu des températures au sol qui étaient de l'ordre de 55 degrés, c'est-à-dire moins qu'hier. On était arrivé à 61, quasiment le record. Et puis, au fur et à mesure de la journée, la température, à la fois celle de l'air et celle du sol, se sont largement affaiblies, puisque là, juste avant la dernière montée, c'était 29 degrés au sol. Les quelques reçuages que l'on pouvait craindre sur le final, ils n'ont pas eu lieu, donc nous on est plutôt rassurés pour la course. Donc là-dessus, on n'a pas eu besoin d'arroser. On se doutait que la fin de la journée allait être un peu plus fraîche, puisque les conditions météo prévoyaient éventuellement de l'orage. On n'est pas encore au bout de nos peines, en fin de journée peut-être. Ouais. Mais pour nous, c'est plutôt tranquille sur cette fin d'étape. Alors qu'au début, on a un peu mouliné, un peu turpiné, puisqu'il y avait quand même des routes un peu dégradées.
Alors André, juste un petit mot, puisque toi tu connais bien les routes de France, hein.
Oui.
La montée vers l'aérodrome, elle s'appelle comment là? Est-ce que vous avez votre mot à dire, vous? Est-ce que c'est bien la montée Jalabert ou la côte de la Croix-Neuve?
C'est la côte de la Croix-Neuve, et puis après on l'a appelé montée Jalabert, en l'honneur de Jalabert qui avait gagné il y a 20 ans, mais elle s'appelle côte de la Croix-Neuve, voilà.
D'accord,
j'affirme. Okay.
D'accord.
Maintenant, on peut en effet lui donner un petit nom, un petit surnom, comme, comme Gros Léon, qui ne s'appelle pas réellement Gros Léon. Gros Léon, bien
mais
sûr.
Si.
Mais on l'appelle tous comme ça.
Évidemment qu'on l'appelle tous comme ça. Pourtant, il y a une borne au pied de la montée qui a été inaugurée en 2005 par Laurent Jalabert, où on voit monter Jalabert. Donc,
monter
je sais
Jalabert,
pas si la borne est toujours là ou non. Pierre-Yves Leroux, notre Breton à nous, je s'y connais dans les gorges du Tarn.
J'ai essayé d'apercevoir la borne, je ne l'ai pas vue, mais elle avait été débaptisée il y a 2 ans, rebaptisée montée Christophe Basson.
C'est pas vrai. Ah.
Oui. Quelqu'un avait tagué.
Ah oui, Christophe Basson est passé et il a mis son nom, d'accord. L'ancien banni du Platon, monsieur propre, Christophe Basson, qui avait mis fin à sa carrière alors qu'il avait été l'objet des attaques répétées d'un certain Lance Armstrong qui vampirisait le peloton et qui avait sorti du jeu un coureur comme Basson.
Très bien, donc plus de bornes chronomètres au pied de la montée Laurent Jalabert. Si tu la vois, Dédé, tu nous fais signe. Merci André, à demain évidemment pour nous tenir au courant des conditions de course sur la route, sur les routes de France et sur la route du Tour de France. 16 kilomètres, mon cher Fred, on s'approche de l'arrivée. Toujours un homme en tête, toujours ce Polonais,
oui.
C'est pas lui qui va gagner quand même.
Et 31 ans, Michel Golas, ancien champion de Pologne, c'était il y a 3 ans, coéquipier de Kwiatkowski et de Cavendish, notamment chez Quickstep, et aujourd'hui les équipiers ont la parole, les seconds couteaux sont à l'avant, si l'on peut qualifier Thibaut Pinot et Romain Bardet de second couteau, puisque on vous le rappelle, ils avaient respectivement terminé 3e et 6e lors du dernier Tour de France, mais les Pinot et Bardet cru 2015 sur ce Tour de France ne sont pas les mêmes que ceux de l'an passé, du coup ils ont eu droit à leur bon de sortie, 15 km 500 à parcourir, un homme seul en tête, Michel Golas, maillot Ethics Quickstep sur le dos, à 25 secondes 19 contre-attaquants, dont on l'a dit, Pinot, Bardet, Ladanius, Roy, Perrichon et Gauthier côté français, également présent dans cette contre-attaque, Peter Sagan, le maillot vert, Greg Van Avermaet, vainqueur de l'étape d'hier, ou le colombien Rigoberto Urán qui tente de se refaire une santé.
Lui. Cyril, un petit mot sur Golas qui a été assez opportuniste sur ce coup-là. Est-ce qu'il peut aller au bout ou les difficultés, notamment la dernière, risquent de lui être fatales?
Non, il est dans un rôle d'équipe pied là au travers de son offensive, puisque à l'arrière il a Rigoberto Urán qui fait quand même partie des meilleurs grimpeurs de sa génération. Golan, ça n'est pas tout à fait un grand grimpeur, mais pendant qu'il est devant, Rigoberto Urán derrière fait de la patinette, et on voit d'ailleurs très souvent y compris d'ailleurs Thibaut Pinot qui bouge un petit peu trop et qui devrait peut-être laisser plus ses équipiers bouger plutôt que lui.
D'ailleurs, à 15 km de l'arrivée, un autre échappé tente de s'extraire de ce petit groupe.
Enfin, oui, c'est Koren, le Slovène de l'équipe Cannondale Garmin, les seconds couteaux, on vous en parlait, dont le nom ne vous évoque pas forcément grand-chose, tente de se faire une place au soleil. Christian Koren, Slovène, donc à la chasse au Polonais Michel Golas, à 14 km 500 de l'arrivée. On va bientôt escalader la côte de Chabry, qui est l'avant-dernière difficulté du jour, avant la très redoutée et redoutable côte de la Croix-Neuve. Koren qui vient de s'extirper, il pointe à une vingtaine de secondes de Michel Golas.
Lucho, c'est pas toujours facile de savoir quand partir comme ça quand on est dans le final à 20. Évidemment, il y a beaucoup plus de chances de remporter l'étape que quand on est avec tout le peloton, mais il faut à un moment donné quitter l'échappée, savoir quand c'est le bon moment.
Mais il faut savoir résister aux attaques, il faut savoir résister à ne pas attaquer si on a les bonnes jambes, mais il faut attendre vraiment la montée finale. pédale pour faire la différence. Alors je regarde un petit peu courir Thibaut Pinot qui a l'air un petit peu nerveux parce qu'il voit un coureur, deux coureurs partir et il a envie de prendre les choses en main, et je serai à sa place, je resterai bien au chaud. De toute façon, il a rien à perdre. Il faut savoir prendre des risques pour gagner ici aujourd'hui à Mende. Il faut attendre, je dirais, vraiment la montée finale. Il ne faut pas bouger une oreille jusqu'au pied de la bosse. Après, eh ben, si ça revient, tant mieux pour lui. Si ça revient pas, ben voilà. Mais il faut prendre des risques et rester bien au chaud dans le groupe de tête.
Prendre le risque, en l'occurrence.
Prendre le risque de laisser partir et rester au chaud et attendre vraiment le pied de la bosse. Parce que même s'il y a 30 ou 45 secondes d'avance pour les deux hommes de tête, si le deuxième rejoint Golas, il y a aucun risque dans la montée puisque la montée est assez longue. Donc, il n'y a pas de souci pour revenir dessus.
Luc, t'as changé tes stratégies?
Pourquoi, Cyril?
Bah, il faut toujours attaquer.
Non, mais là, mais bien sûr qu'il faut attaquer.
Je pensais qu'il fallait dire qu'il fallait pas attendre la dernière montée, mais attaquer dans la montée.
Non, mais là, il n'y a pas de boss avant la dernière montée.
Bah, t'en as une, là, carrément.
Ouais, mais c'est des faux plats montants, ça, il n'y a aucun intérêt. Là, il faut bien laisser partir les deux et attendre dans la dernière difficulté. Et de toute façon, c'est celui qui attaque le dernier qui a raison.
Attention, la côte à venir n'est pas un faux plat montant, Luc. Je ne sais pas si tu l'as emprunté aujourd'hui.
C'est grand plateau.
C'est grand plateau, d'accord. C'est une côte de 2 km à 6%, d'accord,
oui.
Ça monte raisonnablement, on va dire. C'est vrai que ça n'a rien à voir, tu l'as dit, avec la côte de la Croix-Neuve.
Ouais.
3 km d'ascension. Combien peut-on boucher, messieurs, en 3 km d'ascension dans la Croix-Neuve?
Je veux dire, de 45 secondes d'avance pour les deux hommes, s'ils arrivent au pied, en tête, 45 secondes, voire peut-être une minute, c'est faisable.
Très bien, messieurs, on va se quitter quelques instants. On refait un petit tour par Londres avec la suite du double. Eric Salio, les Français menés 2-7-1 par les Britanniques, par les Écossais plus exactement. Oui.
Et surtout breaké dans le quatrième, Christophe, à l'instant, sur une succession d'erreurs de Nicolas Mahut, de Joe Tsonga. Il n'y a plus la flamme là depuis quelques minutes. La perte du tie-break a fait très mal au moral des Français. C'est vrai que ça s'est joué sur un coup de génie d'Andy Murray qui est parvenu à retourner une première à plus de 200 de Joe et d'entraîner ensuite le plongeon désespéré de Nicolas Mahut. Donc 2-7-1 pour les Britanniques, 4-6, 6-3, 7-6, et ils mènent déjà 2-0 dans ce quatrième set. Les Français qui ne mettent plus un retour dans le cours à ce rythme-là. C'est plié dans une demi-heure. C'est limpide, c'est mathématique.
Ça tourne au vinaigre, cette histoire-là. Tout à l'heure, Eric. Allez, on se quitte quelques instants. 12 km 500 de l'arrivée. On s'approche à grands pas désormais de Mende et de la montée vers l'aérodrome. À tout de suite.
RMC, Intégral Tour.